On passe tout de suite au chiffre de la semaine, c'est 8% la baisse du dollar depuis le début de l'année. Personne ne l'avait vu venir et on comprend pas très bien ce que veut faire Trump. Parce que d'un côté, il veut faire baisser le dollar pour lancer les exportations, mais d'un autre côté, les Américains produisent pas tous les produits qu'ils consomment, donc ils seront plus compétitifs. Mais ce qu'on sait, c'est que la hausse des prix va provoquer une inflation parce que ça va provoquer une hausse des prix importés. Et donc, ça aura l'effet contraire puisque ça va peser sur le pouvoir d'achat. Vous comprenez quelque chose, vous, sur la politique du dollar de Donald Trump?
En fait, il voulait faire baisser le dollar, mais il le fait pas de la bonne façon. Alors que le dollar baisse, ma foi, lorsqu'on voit, alors c'est un horrible jargon, les taux de change d'une devise contre toutes les autres devises, et puis on défalque cela de l'évolution des prix relativement, le dollar était cher. L'euro était à peu près à son prix et le yuan était faible. Voilà, ça c'était la configuration de départ. Que dans ce contexte-là, on se dise, tiens, le dollar plus faible, c'est pas une mauvaise idée. Oui, après, il faut le faire de telle façon que ça n'entame pas la confiance c'est dans ça. La devise. On aurait dit...
Et donc la confiance dans la dette voilà. Et donc les taux d'intérêt.
Donc, okay. On aurait dit, j'ai une inflation plus faible, j'ai des taux d'intérêt plus bas. Tiens, le dollar baisse, on aurait dit, parfait, il n'y a pas de remise en cause de la confiance. Le faire par les droits de douane, on voit bien que la confiance est ébranlée. Il y a des tas de signaux bizarres. Les taux longs ont remonté, mais dans le même temps, l'or qui aurait dû baisser a monté. L'écart de taux entre les États-Unis et l'Europe augmente, ça aurait dû faire monter le dollar baisse. Donc on voit bien qu'il y a des questions de confiance. Alors maintenant, comment tout ça va se terminer?
Ah, vous savez?
Oui, moi je sais.
Ah, génial.
Je vais vous le dire. Je suis
content de vous avoir fait venir. J'étais déjà content, mais alors là...
Ouais, alors là, c'est le nirvana.
On est au top.
Non, mais en fait, je trouve qu'il y a un parallèle qui est intéressant, c'est avec 71. 71, le 15 août, on casse le lien entre le dollar et l'or. Et en même temps, on met des droits de douane et en même temps, on fait de la relance, c'est-à-dire qu'on aide les entreprises à faire de l'investissement pour améliorer la compétitivité. Quelque part, ça ressemble à la situation actuelle. Tout ça est fait de façon unilatérale par Nixon. On est le 15 août. Le 18 décembre, eh bien, il y a un accord entre les Japonais, les Européens et les Américains. Les droits de douane sont abandonnés. La baisse de la devise va plus loin. Et donc, en fait, on est un peu dans un scénario
donc,
de ce genre.
C'est fini comment?
Ça s'est fini.
C'est mal fini, l'histoire.
En fait, alors, il y a un autre élément à prendre en compte. Le keynésianisme était en train de passer de mode. On allait progressivement vers le monde que l'on connaît, plus libéral. Et en fait, c'est quand même le début de la stagflation derrière. Donc, c'est un changement d'époque. Et moi, je le dis et le redis, dans ce que fait Trump, et au-delà de tout ce qu'on ne comprend pas et du sentiment brouillon, il y a aussi un changement d'époque. Non, je pense que...
Il est partagé
il est partagé par beaucoup, mais pas par vous, Marc, je le sais.
Est-ce qu'aujourd'hui, avec le dollar, vous comprenez quelque chose? Parce que vous, qui êtes une spécialiste des taux, on voit bien qu'une baisse du dollar, normalement, c'est pas très bon pour les taux d'intérêt, donc c'est pas très bon pour l'économie américaine.
Ce qui est très amusant, là, c'est que dans ce mouvement sur le dollar, c'était un mouvement un peu averse au risque, c'était un mouvement averse au risque sur les marchés financiers. On y a vu à la fois un dollar baisser et des taux longs monter.
C'est ça qui est super amusant.
Il y a des
trucs qui vous amusent, qui sont étonnants.
C'est intéressant parce que d'habitude,
c'est ça
le dollar, normalement, et les trésoreries américains, ce sont des valeurs refuges. Quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on achète de la dette américaine parce que c'est une valeur sûre.
On aurait dû faire comme dans les séries où il y a des rires.
D'accord, ok.
C'était très drôle. Ensuite.
Ce qui est amusant, c'est que le dollar aujourd'hui, la dette américaine, elle n'a pas été, pendant cet épisode, considérée par les investisseurs comme une valeur refuge.
Non.
Où on voit que les investisseurs se disent, oula, il y a peut-être un sujet de gouvernance sur l'économie américaine, ou est-ce que la politique de Trump n'est-elle pas en train de remettre en question l'exceptionnalisme américain? Et c'est pour moi vraiment cet exceptionnalisme américain qui aujourd'hui est remis en question.
Mais je l'entends beaucoup, ça veut dire quoi en fait? Remettre en cause l'exceptionnalisme.
Cette croissance américaine.
On se croirait dans les échos là.
Ouais. C'est pas très gentil, ça.
Ah si, c'est un bon journal, quoi.
Oui, c'est un bon journal. Cette croissance qui était quand même toujours au-dessus du potentiel, révisée à la hausse ces dernières années. Pourquoi? C'est parce qu'on avait un gouvernement qui dépensait, on avait de l'investissement, on avait des gains de productivité, on avait des marges des entreprises qui ne cessaient de monter. Est-ce qu'on voit toujours les marges des entreprises continuer de monter dans cet environnement aux États-Unis? Bien non. Et puis on avait un marché action qui performait, de l'effet richesse. Était toute cette séquence qu'on peut appeler l'exceptionnalisme américain, qui aujourd'hui peut être remise en question avec la politique de Donald Trump.
Est-ce que, parce qu'il y a, des gens qui essayent de comprendre ce qu'il fait, j'en fais partie, est-ce qu'on peut considérer que le fait d'accepter un ralentissement de la croissance, voire une année d'austérité, c'est finalement pas une bonne méthode? Jean-Marc Daniel, je le répète toujours ici, dit, en fait, il y a une forme de croissance qui n'est pas vertueuse. C'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise. Et ben la croissance américaine par la consommation qui implique des importations, je caricature, de produits chinois, ben c'est mauvais pour la balance des paiements courants, donc c'est mauvais pour l'économie. Non. Et donc moins de croissance, c'est peut-être mieux.
Mais c'est sûr que le modèle américain centré sur la consommation n'est pas le meilleur modèle. Ça, je crois que c'est tout à fait vrai.
Centré sur la consommation de produits importés, entre autres.
Enfin. Voilà. Sur la consommation de n'importe quoi.
Bah non, si vous produisez vos propres produits, c'est pas très grave d'être centré sur la consommation.
Oui, mais enfin, après, il y a des produits qui ont un contenu en idées, en choses nouvelles importantes. Quand c'est de la consommation courante, c'est pas le cas. Et il faut pas oublier que sur les dernières années, l'économie américaine a été shootée par la dépense publique. C'était du keynésianisme poussé à bout. C'était pas tenable. Donc, d'une façon ou d'une autre, le ralentissement, il était pour demain. On dirait juste que Trump accentue un peu le ralentissement.
Mais un ralentissement peut être bénéfique. On l'a vu en Grèce, on l'a vu en Italie, on l'a vu au Portugal, l'a vu en Espagne. Oui ou non?
Oui, mais il y a une purge et il faut savoir gérer socialement, politiquement la purge avec l'antagonisme qui règne aux États-Unis aujourd'hui. Bonjour la capacité à gérer cette purge.
Donc vous dites ça peut ne pas être mauvais, mais il va falloir passer par une période de transition qui peut être douloureuse.
Peut être très douloureuse.
Et longue.
Et longue. Comme le week-end de 3 jours que vous avez.